les ados ont-ils les moyens de leur autonomie ? Telle est la question dont ont débattu nos invités au cours d'une table ronde plateau radio enregistrée à la MJC Espace Hélios de Lambreau-les-Doués le mardi 24 octobre à 18h30. Je vous propose aujourd'hui un retour sur cette table ronde plateau radio avec la participation de Mohamed Rezgi, éducateur en service PJJ, administrateur au centre social Henri Martel de Oisier, Éric Marteau, directeur de l'école européenne supérieure de travail social de Lille, François Chastain, directeur de la MJC La Maison, centre social du Virolois à Tourcoing, Laurent Buisine, éducateur de l'EPDSAE du Nord, antenne de Douai, Brigitte Bonafé, psychologue, et Nina Debaille, responsable du collectif La Jeunesse est Douai et présidente fondatrice de l'association La Parenthèse Musicale. Les ados ont-ils les moyens de leur autonomie ? Table ronde plateau radio proposée par la MJC Espace Hélios de Lambreau-les-Doués et Radio Scarpe Sensé. Éric, je vais commencer avec vous. Vous m'avez dit, et je vous ai lu, parler de la jeunesse est en quelque sorte incongru parce que la jeunesse, ça regroupe des tas d'individus totalement différents et qu'on ne peut pas généraliser tout le monde. En plus, le regard de l'adulte sur le jeune dépend également de sa situation d'adulte, surtout s'il est un professionnel. On va dire que les jeunes, pour l'état civil, c'est avant 18 ans. Pour l'éducation nationale, c'est jusque 16 ans, puisque la scolarisation est obligatoire. Pour la mission locale, on doit être aux alentours de 25 ans. Et à la SNCF, le tarif jeune, c'est jusque 27 ans. Donc on voit que ça s'adapte. Donc si je travaille à la SNCF, à 27 ans, je suis encore jeune. 28 ans, je commence à être un peu plus vieux. Et vous dites surtout, la jeunesse est le temps de l'attente patiente de la réalisation d'une véritable autonomie économique, sociale et citoyenne. Expliquez-nous tout ça.
Oui, l'idée qui est là derrière, c'est que la jeunesse est marquée traditionnellement par des frontières biologiques qui vont de la puberté à la fin de la croissance biologique, et que en fait il y a tout un travail du social et des acteurs pour faire varier les frontières de cette jeunesse, c'est ce que vous venez de nous expliquer d'ailleurs, en fonction d'un certain nombre de paramètres qui peuvent être commerciaux, juridiques, sociaux, liés à des droits, à des prérogatives, à des statuts, etc. Et donc cette jeunesse, elle est située idéalement, mais c'est très flou, entre le moment de l'enfance, la fin de l'enfance, et le début de l'âge adulte. Il y a tout un travail du social, de la société, pour faire varier les bornes et les frontières de cette jeunesse. Voilà,
on n'est pas tous égaux, parce que ça dépend également de là où on vit, de là où on est, de là où on évolue, en termes de temps vers l'autonomie. Il est plus ou moins long en fonction de l'individu.
Tout à fait, oui. Oui, il varie en fonction de l'accès à certaines ressources, comme le travail, le logement, en fonction des représentations que les familles se font, d'ailleurs, de ce que c'est qu'être jeune ou pas, et en fonction de ce que la société va, comme je le disais précédemment, définir comme catégorie de jeunes ou d'adultes.
C'est quoi l'autonomie pour un jeune ?
Alors l'autonomie pour un jeune, on peut distinguer plusieurs types d'autonomie. Je pense que Brigitte Bonafé pourra nous parler de l'autonomie, d'une certaine autonomie cognitive et d'une certaine autonomie dans la manière de penser le monde. On distingue aussi une autonomie fonctionnelle, c'est-à-dire la capacité à se débrouiller tout seul, pour faire court. Et puis on peut surtout regarder l'autonomie comme un processus, comme quelque chose qui est sans cesse en croissance et qui libère de plus en plus l'individu tout en lui faisant prendre conscience qu'il est relié aux autres. On peut définir l'autonomie comme la capacité à faire des choix éclairés en se sentant responsable de ses choix.
Brigitte, complément par rapport à cette question d'autonomie et sur les frontières que l'on peut mettre par rapport à l'âge. À quel moment on estime que l'on sort du champ de la jeunesse ?
Alors, on a beaucoup utilisé le terme d'adolescent, et pendant tout un temps, puisqu'avec le contexte économique peu favorable, les jeunes sont obligés de plus en plus de cohabiter avec leurs parents, les générations qui les précèdent. On a même parlé d'adolescent. pour montrer qu'effectivement, on avait un âge qui était de l'ordre de 18-20 ans auquel on pouvait prétendre devenir adulte, mais que cet âge s'étend dans le temps. Et je pense que quand on parle de société également, on a perdu, quitte à paraître pour quelqu'un un peu ringarde, mais j'assume, on a perdu un petit peu tous les rites de passage qui permettaient aussi aux jeunes de s'y retrouver dans les différentes modalités, dans l'évolution effectivement qu'est l'adolescence et qui lui permettait d'avoir des repères et que les parents aient également des repères. Parce que j'ai plus en plus de demandes de parents qui ne savent, qui me disent « nos enfants sont des éternels adolescents ». Mais en sachant que pour eux, qu'est-ce que revêt l'adolescence ? C'est surtout le fait qu'ils soient autonomes sur le plan financier. Alors l'autonomie, effectivement, pour un psy, c'est l'autonomie psychique. Et je rejoins ce qu'a dit Alain, c'est avoir la capacité de faire des choix, mais pour faire des choix, que l'enfant est disposé d'une culture et d'une éducation suffisante pour développer un esprit critique qui lui permette de faire un choix qui soit totalement averti. Malheureusement, actuellement, on manque de plus en plus de cet esprit critique qui... fait que l'autonomie psychique n'existe pas et on a tous les phénomènes d'embrigadement et d'emprise de plus en plus fréquents. Et je pense qu'il y a un parallèle entre le manque d'autonomie psychique par faute de moyens donnés par la société et les phénomènes de masse dans lesquels certains jeunes sont happés, faute d'esprit critique.
Je me trompe si je résume en disant que selon vous, les rites de passage permettaient de grandir ?
Alors les rites de passage permettaient certes de grandir, ou à l'adolescent de s'y retrouver dans son évolution, et à la société et la micro-société qui est la famille, d'accepter ce temps de passage. Je ferai un parallèle où avant, alors bien qu'étant psy, je commence, quand on entend qu'il y a un deuil, tout de suite on entend cellule de crise psychologique, et c'est quelque chose qui me fait bondir, parce que je pense qu'on est dans une société où on ne permet plus à personne d'exprimer ses émotions. Mais dans le temps, par rapport à un deuil, il y avait toute une évolution, le noir, le gris, le mauve, qui rythmait la temporalité du travail de deuil. Et pour les adolescents, c'est un petit peu pareil. Il y avait le temps de la communion, le temps de l'armée. Et quand je vois des adultes de plus de 50 ans, donc des grands adolescents, et que j'évoque avec eux leur parcours de vie, quand je mets le service militaire, c'est souvent quelque chose qu'on me rappelle, parce que pour les gens, c'était le premier départ de la famille, la première forme d'autonomie, ou tout au moins de distanciation avec sa famille. Et je pense que ça donnait des repères qui étaient un peu des référentiels communs à la société. Or, actuellement, on laisse nos ados avec la possibilité, voire pour certains, le devoir de se trouver ses propres rites de passage, et c'est parfois très complexe.
Les ados, ont-ils les moyens de leur autonomie ? Table ronde plateau radio, proposée par la MJC Espace Hélios de Lambre-les-Douai et Radio Scarpe Sensé. Avec la participation d'Éric Marteau, directeur de l'École européenne supérieure de travail social de Lille, François Chastain, directeur de la MJC La Maison, centre social du Virolois à Tourcoing, Laurent Buisine, éducateur à l'EPDSAE du Nord, antenne de Douai, Brigitte Bonafé, psychologue, Nina Debaille, responsable du collectif La Jeunesse est Douai et présidente fondatrice de l'association La Parenthèse Musicale, et Mohamed Rezgi, éducateur en service PJJ, administrateur au centre social Henri Martel de Oisier. Mohamed Rezgi, à quel moment vous êtes senti autonome ? Personne, voilà, je retourne la question. À quel moment, s'il fallait mettre un moment sur votre autonomie ?
C'est compliqué.
Je sais. Bah, c'est bien de discuter de l'autonomie des jeunes, mais de se poser la question,
c'est un peu plus complexe. Surtout là, vous me faites faire un bond en arrière qui est... Alors, à partir de quand je me suis senti autonome ? C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai pu élaborer un projet de vie et puis le mener à son terme, entre guillemets. Donc, c'est là où j'ai commencé à me sentir autonome. Bah, pour moi, c'est-à-dire à pouvoir élaborer, à pouvoir me prendre en charge, à pouvoir faire des choix. C'est à partir de là que je me suis senti véritablement autonome. Après, dans ce qui m'intéresse sur le plan de ma pratique professionnelle, c'est que je suis confronté à un public qui est en très grande difficulté, puisqu'on parle de l'autonomie des jeunes, et on a souvent cet exemple du jeune étudiant, etc. Alors que, par exemple, à la protection judiciaire de la jeunesse, on est confronté à un public en très grande difficulté, et pour lequel l'autonomie, c'est vraiment quasiment un défi. Un défi est le but ultime, j'ai envie de dire. C'est presque la cerise sur le gâteau. On a des adolescents. Alors là, c'est un peu plus compliqué, parce que l'autonomie, nous, on la conçoit juridiquement aussi, c'est-à-dire dans le cadre des accompagnements. Alors la justice, elle prévoit un accompagnement pour les jeunes majeurs jusqu'à 21 ans. Dans le cadre pénal jusqu'à 22 ans. Et moi, ce que je constate au travers de ma pratique professionnelle, par exemple, c'est qu'on demande souvent aux jeunes les plus en difficulté d'être plus rapidement autonomes. Et on ne pense pas forcément aux difficultés auxquelles ils sont confrontés et au parcours qui doit être le leur avant de pouvoir accéder à une autonomie qui est totalement différente d'une moyenne sociologique ou statistique de la population.
Si vous avez du mal à me répondre sur la question de votre propre autonomie, c'est que le processus a pris du temps pour vous.
Voilà, exactement. Beaucoup de temps même.
Et on demande donc à ces jeunes, ce que disait Brigitte, d'aller très vite vers l'autonomie.
Exactement. On leur demande d'aller très vite vers l'autonomie. Et ce que vous disiez, Brigitte, c'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, on ne prend pas forcément en considération le parcours, l'histoire de ces jeunes, les freins, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient en termes de réseau, qu'ils soient sur le plan du lien familial, etc., qui entravent leur processus d'autonomie. Après, bon, il y a la question aussi de l'indépendance financière, la question du travail, de l'emploi, de la formation, parce que souvent, on n'a qu'une seule idée où on pense l'autonomie, on la confond avec l'indépendance financière, en termes de formation, etc., et on ne vise que cet objectif-là. Alors qu'auparavant, il y a tout un travail à faire avant de pouvoir élaborer un projet professionnel, le mûrir et le mener à son terme.
C'est pris en compte, ça, dans les formations, justement, que l'on dispense quand on est en charge de former des professionnels de l'accompagnement, les conditions socio-économiques que l'on vit actuellement, ça a une influence sur la façon dont on forme les professionnels de l'accompagnement ?
Oui, je pense que c'est même au cœur des processus d'accompagnement et de la formation. En fait, ce que disait mon voisin, c'est qu'il y a des phénomènes d'inégalité sociale extrêmement forts qui traversent la jeunesse et que la distribution des ressources, qu'elles soient financières ou culturelles, politiques, dont disposent les jeunes, est très différente d'une catégorie à l'autre et que les jeunes de milieux populaires, par exemple, sont aujourd'hui, je pense à la suppression tout à fait récente des CAE, sont privés d'un certain nombre de ressources qui leur permettaient de travailler à leur autonomie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement, quand on accompagne, je pense que les collègues éducateurs seront d'accord avec moi, il ne s'agit pas seulement de fournir des solutions, il s'agit aussi de prendre en compte la manière dont le jeune apprend à se servir de ces solutions. C'est-à-dire que c'est un processus d'essai-erreur. Et donc, plus on va vite, moins on a le droit à l'erreur. Et il y a là de grosses inégalités. Et puis encore d'autres types d'inégalités qui sont liées au milieu d'origine aussi. Je pense que c'est aussi pour ça que les formations en travail social font appel à l'ethnologie, par exemple, puisque suivant les cultures d'origine, les cultures de milieux populaires n'ont pas le même rapport au temps et à l'espace que les cultures de la classe moyenne, aisée, voire des classes supérieures qui se déplacent à travers le monde et qui considèrent que le monde est un village, par exemple. Tout ça nécessite qu'on se dote de lunettes spécifiques en formation pour distinguer chaque groupe, chaque classe, pour distinguer chaque famille et puis distinguer finalement chaque individu, parce qu'à l'intérieur d'un même groupe et d'une même famille, et on le sait tous, on en a tous fait l'expérience, l'acquisition du processus d'autonomie est très différente d'un individu à l'autre, enfin, en fonction de son histoire et des ressources dont il dispose ou pas, quoi.
Laurent Buzine, je vais tutoyer Laurent, on se voit souvent. Tu me dis souvent que ce qui compte dans ton travail, toi, c'est la part d'autonomie de la famille dans l'accompagnement qui lui est proposé. Tu peux développer ça en disant, si eux ne sont pas suffisamment autonomes pour faire partie de l'accompagnement, ça marchera très difficilement.
Très très simple. Tu t'es déjà fait flasher, tu sais que c'est interdit de rouler à plus de 50, on t'a sanctionné, pourtant tu as continué à rouler au-dessus des excès de vitesse. Bon, je balance personne, mais si je te dis quoi faire, tu vas pas le faire. Parce que ton seul moyen d'exister, c'est de dire non, quoi, et de faire autrement, quoi. Dans mon travail avec les familles, il faut que je prenne le temps de pouvoir déconstruire d'abord la commande. La commande est, on rencontre une famille, on a 6 mois, il faut faire un projet, PPE, PPI, projet, enfin, peu importe, quoi. Notre projet à nous pour la famille, quoi. 6 mois, la famille, elle résiste. Si la famille, elle dit non. Et si la famille, elle fait autrement, on va se rencontrer sur un autre temps. Et si on fait abstraction de ce temps-là, on va essayer de travailler avec la famille sur ce qu'est la demande, ce qu'est, selon elle, être autonome. Parce que moi, je suis autonome à ma manière et j'ai été jeune et dépendant pendant très longtemps. Et peut-être encore, je ne suis pas autonome sur tous les plans. Si on part du principe que l'autonomie, c'est connaître ses dépendances, il faut déjà prendre le temps de rencontrer l'autre pour connaître ses dépendances à lui. Si sa dépendance à la famille, ce sont les commandes des travailleurs sociaux ou des magistrats ou des injonctions des différentes institutions qui vont les guider, c'est cuit d'avance, quoi. Par contre, si l'autonomie, c'est avoir une opinion émettre un avis, un sentiment sur sa vie. Et on l'a vu, nous, à la radio, ce qui, toi, t'a surpris, c'est que j'ai travaillé 6 ans en maison d'enfants et on s'est rencontrés quand je travaillais en maison d'enfants, c'est que tous ces jeunes avaient 12, 13, 14 ans et ils en avaient 18, 20, 25 comme préoccupation, quoi. Est-ce que je vais travailler? Est-ce que je vais gagner ma vie? Leur préoccupation du moment, c'était pas de regarder Star Academy ou les Ch'tis ou je sais pas quoi. Ils regardaient pas ça, les jeunes, tu te rappelles? Ce sont des jeunes qui comptent. Je suis placé depuis autant de jours, autant de mois, autant d'années. Je dois avoir tel projet, il faut que je me donne le moyen de réaliser tel projet. Puis dans leur fond, toi, t'arrives. Alors Hervé Dujardin, formidable, il dit: ouais, mais dans le fond, toi, qu'est-ce que tu veux? Bah, moi, ce que je veux, c'est respirer, quoi, qu'on me donne du temps, quoi. Eh ben ici, tu as 2 heures pour respirer, prendre le temps, quoi. Et c'est vrai que chez moi, ça a créé un déclic en me disant que je dois d'abord déconstruire ce que j'ai appris en formation, à savoir comprendre le système dans lequel évoluent les familles, ou en tout cas les jeunes placés à ce moment-là, pour leur apprendre à essayer d'en faire quelque chose. Il y avait ce jeune Jordan à qui tu demandais, mais pour toi, c'est quoi avoir une bonne relation à un éducateur? C'est soit présent, surtout quand tu n'es pas là. Autrement dit, il nous disait, j'ai pas besoin que tu sois à côté de moi pour traverser la route, j'ai besoin de savoir que tu m'as appris à regarder à gauche, à droite, parce que j'en ai compris le sens, quoi. Et c'est là où la notion du temps, elle vient aussi s'entrechoquer avec les commandes de l'autonomie. On peut être autonome à 16 ans, on peut être pas autonome à 50 ans. Enfin, voilà, c'est ça, c'est toute la difficulté de comment est-ce que tu rentres en contact avec les gens dans leur temps. Avec leur représentation de l'autonomie et de ce que la société leur permet. Parce qu'effectivement, comme le dit Eric, plus on va vite et moins on a le droit à l'erreur. Et pourtant, ce sont des par essai et par erreur qu'on apprend à grandir, quoi.
Eric, je reviens vers vous dans un instant.
Moi, Amélie. Maman d'une magnifique petite fille et épouse d'un fantastique mari. Ils me rendent heureuse. Je suis comblée. Nos devises sont « carpe diem » et « nous trop rien ». Je me sens donc jeune et conquérante. Parfois, dans le cadre de mon travail, les jeunes me renvoient à mon âge par cette question fatidique. Quel âge as-tu ? D'ailleurs, cela reste un mystère pour eux. C'est devenu même un jeu entre nous. Et ce qui me renvoie aussi à mon âge, c'est quand ils évoquent des mots, des expressions telles que « squeezy ». Cyril Schreiner, je ne sais même pas le dire, qui dit « Chator, Chater !» Un youtubeur. « Askip, hashtag, etc. » Durant mes études d'éducateur spécialisé, j'ai appris de manière théorique ce qu'est un adolescent. Des concepts comme puberté, compétences psychosociales, résilience, complexe du homard, Freud, Piaget, Dolto. Franchement, à ce moment-là, quand j'essaie de faire l'articulation théorie pratique comme appris dans mes études, je sèche. Et là, je vous assure, il s'opère des tas de choses. La première, c'est la notion de respect et de confiance. Ces jeunes, entre autres, s'appellent Baptiste, Manon, Maxence, Ethan, Esther, Élise, Omérine, Loïc, Louane. C'est eux qui m'apportent ma richesse professionnelle. C'est eux qui me motivent. C'est eux qui me donnent envie d'aller plus loin. Ils sont mon équilibre professionnel. Je dirais juste, grâce à eux, I love my job. Durant mes études, ouais, car pour faire mon métier en France, malgré tout, il faut faire des études. Ça vous surprend, hein. Donc, dans mon cursus, on m'apprend qu'il ne faut surtout pas s'attacher, pas avoir d'affect, pas trop d'empathie. Non mais allô quoi, mais quelle connerie! Je l'acclame haut et fort. En fait, sans ces émotions, je me ferais royalement chier dans mon boulot. Freedom, freedom, freedom. Moi, Amélie, éducatrice spécialisée, j'ai des valeurs, j'ai des émotions et je travaille avec tout cela. Merci, mes loulous, les nains de jardin, les boulets, les chouchous. Ça, c'est des petits surnoms donnés parfois. Dans mon métier, une théorie dit qu'il ne faut pas, par exemple, donner des surnoms. La prise de position, des jugements, garder sa place. Est-ce que cela fait de moi un bon ou mauvais professionnel? À vous de me le dire.
Voilà, c'est un... c'est jusqu'au bout. Voilà. C'est un témoignage collecté au cours d'un atelier réalisé avec des gamins. On devait écrire des billes d'humeur où finalement l'éducatrice est également pliée au jeu. Je trouve que ça illustre quand même toute la complexité de l'accompagnant qui doit amener l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte à grandir tout en gardant de la distance, dit-on. Comment on fait pour trouver l'équilibre? Est-ce qu'il y a des barrières à mettre ou pas? Est-ce que quand on met trop finalement d'affect, on empêche l'autonomie?
C'est une question redoutable que vous me posez là. Moi, j'ai juste envie de répondre que la question, c'est pas la distance, c'est les allers-retours qu'on fait sur ce qui sépare de l'autre, quoi. C'est-à-dire comment on s'approche de l'autre, ou comment on projette sur lui ses valeurs, ses affects, ses sentiments, ses espoirs, etc. Parce que ça l'aide à grandir, à bouger, hein. S'il n'y a pas de désir du côté de la personne qui éduque ou qui accompagne, en face, il ne se passera rien, hein, c'est clair. Et dans le désir, il y a parfois de l'amour, il y a toujours du respect, il faut l'espérer. Donc il faut s'approcher. Puis il faut aussi savoir se prendre du recul, faire des pas en arrière, parce que si on est trop proche, ben, ce qui se passe, c'est qu'on fait à la place. Il faut se reculer, il faut laisser à l'autre la possibilité de prendre des risques, de se casser la gueule, d'hésiter, voire de s'asseoir et de plus bouger pendant un certain temps, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure de la temporalité. On n'avance pas tous au même rythme, mais pour quelqu'un qui avance vite, il y a des moments où il s'arrête, il s'assoit, il réfléchit ou il fait autre chose, mais c'est toute la difficulté de monter des projets, ça, de conjuguer des désirs, voilà, c'est compliqué. Donc je ne sais pas vraiment répondre à la question de où est la bonne distance, quoi. Je pense qu'en tant que professionnel, on se la repose à chaque fois qu'on est en train de rencontrer et qu'on oscille. Alors, j'avais un copain psy qui disait entre confiance et défiance, quoi. C'est-à-dire des deux côtés. Comment on va passer un deal ensemble, ou comment on va réussir à surmonter les représentations négatives. C'est ce que disait tout à l'heure mon collègue Éduc aussi, les a priori qui traversent cet espace-là, quoi, dans la relation, quoi.
François, on s'intéressait un petit peu à l'éducation populaire. Le droit de se tromper, le droit à l'erreur, ça compte, ça, dans les valeurs de l'éducation populaire? Tenter les choses, essayer.
Oui, enfin, ça renvoie à ce qui était dit tout à l'heure sur l'acquisition de l'autonomie passe par un processus. Enfin, Moi, ce que je voudrais dire par rapport à l'autonomie, c'est d'abord de me dire, mais c'est qui délivre le diplôme d'autonomie? Parce qu'on l'est, on ne l'est pas, mais ça se trouve où, cet endroit où effectivement on va valider, on va dire c'est bon, hein, tu passes la toise, toi tu es autonome, toi tu ne l'es pas, ou toi tu ne l'es pas encore. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que bon, moi je travaille dans une maison de jeunes et de la culture dans un quartier populaire, donc avec une jeunesse, parce qu'il y a des jeunesses, mais je pense que de n'aborder la question de l'autonomie que de façon générale, c'est sans doute très différent, suivant le lieu où on se construit, le lieu où on habite, les réalités auxquelles on est confronté, les repères qui peuvent être les siens. Et j'aurais envie de dire, moi, les jeunes que je rencontre quotidiennement, qui ont toutes les caractéristiques de cette jeunesse qu'on pourrait qualifier de non-autonome, ben moi, ils m'épatent dans leur capacité à être autonome. Si moi je dois délivrer un diplôme, je leur délivre. Est-ce que pour autant ça remplit tous les canons que peut-être une société construirait pour dire, eh ben, pour être autonome, il faut avoir un compte en banque suffisamment fourni, il faut peut-être avoir un emploi, peut-être le permis de conduire, peut-être... Mais moi, ce que je constate, c'est des jeunes qui font preuve d'une intelligence et d'une capacité à comprendre la réalité qui est la leur, à bâtir des stratégies de contournement. Par exemple, on parlait tout à l'heure sur un « il faut faire des projets ». Mais enfin, moi, j'ai des dizaines d'histoires de cette capacité à dire eh ben ton projet, on va te le faire et on sait comment il faut le faire. Tout ça pour dire que quand on parle autonomie, est-ce qu'effectivement c'est de repérer que les critères pourraient être réunis pour que finalement on soit tous rassurés dans un adulte en construction qui soit en raccord avec l'image qu'on a de ce que cette société doit produire ? Ou est-ce qu'à un moment, on se base d'abord sur les réalités objectives qui font eh ben, que les uns et les autres, certains avec plus de facilité, d'autres avec des difficultés, mais se construisent leur propre capacité à avoir prise sur leur environnement. Enfin, moi, ça me paraît essentiel. Alors, tout ça a ramené dans notre réalité, bien évidemment. On est bombardé par tous les dispositifs et toutes les politiques publiques qui nous parlent, d'ailleurs, hein, d'accompagnement, d'autonomie, les départs autonomes en vacances, enfin, j'en passe des meilleurs. Mais ceci étant, la vraie question, c'est sur la nécessité de mettre en tension que les conflits qui construisent puissent se mettre en œuvre. Et les lieux, moi je suis assez d'accord, ils sont de moins en moins nombreux. C'est en tout cas, hélas, pour beaucoup, c'est pas l'entreprise hein, qui pouvait être dans un rapport aussi à l'autre, à l'adulte, à l'autorité, où les choses se construisent. C'est bien souvent les seuls lieux d'accueil possibles que sont le secteur associatif. Les MJC en font partie, mais y en a d'autres. À ceci près qu'aujourd'hui, c'est pas ça qu'on nous demande. On nous demande bien plus souvent de faire de la pacification sociale que finalement de travailler sur la question du conflit. Quand il n'y a plus d'expression de conflit, il ne reste plus que la violence.
C'est-à-dire qu'on vous demande plutôt de calmer le jeu que de prendre en compte l'expression des jeunes avec lesquels vous travaillez.
On pourrait même, si on était mauvaise langue, dire mais finalement, le travail à l'autonomie qu'on nous demande, est-ce que finalement, c'est pas déjà de travailler sur l'absence de conflit et le consensus ? Et c'est vrai, et d'ailleurs, enfin, tu me posais la question tout à l'heure sur comment vous évaluez les actions qui sont menées, ben, c'est vrai que souvent les critères d'évaluation, ils sont plutôt de cet ordre-là. Si demain on évalue une action en disant ben, ça a permis l'expression d'un vrai conflit, d'une revendication, d'exigences qui ont été portées, je ne suis pas sûr qu'il y ait les cases dans les formulaires d'évaluation, mais que par contre on puisse faire la démonstration sur un quartier, la souffrance est importante, mais en tout cas ça continue de fonctionner et ça ne pète pas trop. Des fois on a un peu cette impression-là. Et je pense que l'autonomie, ce n'est pas ça. C'est tout le contraire.
Est-ce que vous souffrez également dans les diverses associations ou MJC, d'une sorte de principe de précaution qui est appliqué afin de ne pas prendre de risques ou mettre le jeune dans une situation qui pourrait être inconfortable et pas forcément dangereuse. Comprenez ce que je veux dire ?
Ah ben moi, je pense. Une des formes d'affirmation de ce qu'on pourrait appeler d'une autonomie, ce serait justement de dire « ce que je vis, c'est pas normal et je ne l'accepte pas ». J'ai des aspirations à d'autres modes d'organisation, une meilleure reconnaissance dans le quartier, peut-être même dans l'association dans laquelle je suis, peut-être au travers des politiques publiques. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé de subvention qui nous aide à développer ça. Hein, enfin, si elle existe, je suis preneur, mais ce n'est pas tellement la tonalité du moment. Alors que je pense que ça passe par là, enfin, sur cette capacité à un moment d'être partie prenante du changement. Et ça, ça passe par l'émergence de revendications, d'actions collectives. Voilà.
Vous arrivez à porter cette parole au centre social, à Oisier ou,
En tout cas, on essaye de la porter, mais je voudrais revenir sur un certain nombre de points qui ont été abordés. C'est, en premier lieu, bon, les jeunes, comme on l'a dit, plein de jeunes. Il y a les jeunes qu'on a à la maison, il y a les jeunes qui sont suivis par qui vont à la mission locale, qui ont des difficultés scolaires. Il y a ceux qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qui sont en danger. Il y a ceux qui sont soumis à une contrainte pénale. Il y a plein de jeunes différents, il y a plein de jeunes avec lesquels on doit faire un travail qui les mène vers l'autonomie et qui est différent pour chaque jeune. Ensuite, par rapport à la distance, et c'est là aussi où je voudrais rebondir, c'est par rapport à la distance. Vous avez parlé de la bonne distance. Moi, j'ai envie de parler de la distance variable. Ben, des fois, il faut être là, peut-être plus, puis à un moment, peut-être moins. Et je pense qu'on ne peut reproduire à un moment donné que ce qu'on a peut-être vu, peut-être compris, peut-être intégré. Et plutôt que de la bonne distance, moi, je préfère parler de la distance variable. Par exemple, j'assistais à une journée sur la protection de l'enfance à l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse. Et on a interrogé les personnes qui ont bénéficié. Alors, c'est vrai que moi, c'est un champ bien particulier d'un suivi, notamment avant leur majorité. Il y avait une réponse qui était unanime, c'est que les professionnels, ben, ils avaient dépassé leur cadre d'intervention, qu'à un moment donné, ils avaient fait plus. Alors peut-être qu'ils y croyaient davantage, je ne sais pas, mais il y a une question aussi d'engagement. Et ça, ça les avait marqués. Ils avaient estimé que c'était un point essentiel qui avait fait en sorte que, ben, à l'accès à la majorité et quelques années plus tard, bah, il se retrouve dans une situation d'autonomie et peut-être d'indépendance aussi. Et c'est, moi, c'est cette distance-là qui m'intéresse. C'est la distance variable. C'est qu'à un moment donné, on peut avoir besoin de plus, à un moment donné, de moins, en fonction de la situation dans laquelle on est, en fonction de son état d'esprit, en fonction de ce que l'on vit, etc. Et cette variabilité, cette adaptabilité, elle fait parfois défaut. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait être retravaillé, ou en tout cas, au moins acquérir, avoir une certaine importance dans l'accompagnement des, quel qu'il soit d'ailleurs, quelle que soit la situation du mineur.
Éric.
Oui, je suis d'accord avec toi. Hein. Elle fait d'autant plus défaut, cette variabilité ou cette distance variable, qu'elle a un coût. Le travail social coûte, l'animation socioculturelle coûte. Et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, la société française soit d'accord, enfin, tout au moins l'expression politique tente à montrer le contraire, pour assumer collectivement le coût de cette variabilité pour aller récupérer les gamins, j'ai envie de dire, un par un, quoi, ou quartier par quartier, etc., quoi. On voit bien qu'on déconventionne les associations de prévention spécialisée, il y a de moins en moins d'éducateurs de rue, on voit bien qu'on coupe les subventions des assos qui travaillent auprès du public toxico, on voit bien que les budgets des établissements d'accueil de l'aide sociale à l'enfance baissent régulièrement, et qu'on est bientôt à l'os d'ailleurs, quasiment. Il y a vraiment une question de choix de société qui est là derrière, je pense.
Alors, ce qui est terrible également, c'est qu'il y a des choix politiques qui sont faits en disant on ferme des structures pour amener les jeunes plus vite en autonomie. Voilà, parce que ça coûte moins cher. Mais encore une fois, on n'est pas dans la bonne temporalité à ce moment-là. Mohamed, vous me disiez, on pense l'autonomie uniquement par le travail, l'accès à l'emploi, sans prendre en compte les autres zones où le jeune doit être autonome avant de pouvoir réellement être en termes d'être employé et s'intégrer par le travail.
En tout cas, c'est le seul, c'est pas le seul, mais en tout cas, c'est un des objectifs qui nous est assigné dans, en termes d'accompagnement, et c'est la plus importante. C'est ce qui est pris en compte par les financeurs, et puis même pour l'octroi de certaines décisions judiciaires dans le cadre de l'accompagnement des jeunes, c'est y a-t-il un processus d'insertion professionnelle, de formation en cours avec le jeune, avec le mineur, avec le jeune majeur, pour pouvoir avoir accès à certaines aides. Et on a une vision de l'aboutissement du processus d'autonomie qui est forcément sur le biais de la formation, sur le biais du travail. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, pas être en formation, mais à mon avis, avant de pouvoir mûrir un projet de formation et pouvoir se projeter donc dans une vie peut-être différente de celle qui est celle des jeunes au moment où on leur demande, il faut avoir rempli un certain nombre de conditions, et je ne sais pas si on prend en compte ces difficultés, tout simplement. Après, il y avait aussi alors pour revenir juste pour la question politique, il y avait aussi la question des contrats aidés, parce que les contrats aidés, ça a aidé aussi un certain nombre de jeunes. Alors on va me dire c'est des emplois précaires, soit, mais c'est des emplois qui, je pense que c'était le maillon manquant entre les jeunes qui étaient sans activité et l'emploi durable, entre guillemets, ou l'emploi un emploi plus stable. Et aujourd'hui, avec la diminution des contrats aidés, c'est un outil qui nous permettait aussi de valoriser le jeune, de faire en sorte qu'il ait le sentiment d'une véritable utilité sociale, et puis de redonner confiance en soi et l'amener aussi faire des démarches qui peuvent l'amener à une insertion professionnelle beaucoup plus forte.
Brigitte.
Oui, donc moi je voulais rebondir aussi sur le fait qu'il faut que nous, les adultes, changeons notre regard sur les jeunes, parce qu'on a encore beaucoup de gens qui sont un peu effrayés quand on veut laisser une forme d'autonomie aux jeunes. On a tendance à les considérer non pas comme des sujets à part entière, mais des objets d'études. Et je pense qu'on prétend trop souvent encore savoir mieux, et c'est une phrase qui m'est chère, et je me tourne vers Nina, parce que c'est elle qui est quand même au premier chef concerné et qu'on n'a pas encore entendu, c'est de dire, nous les adultes, professionnels, politiques et autres, il faut arrêter de prétendre savoir mieux que le jeune lui-même ce dont il a besoin. Et je pense que parfois on plaque avec notre vision d'adulte quel serait le meilleur modèle pour le jeune, alors que le jeune est tout à fait capable effectivement de définir ce dont il a besoin, dans le meilleur des cas, ce qu'il désire ou ce à quoi il aspire arriver. Et on doit être effectivement dans l'accompagnement à ce moment-là, à géométrie variable, avec, moi j'appelle ça une juste distance. Et quand on parlait des émotions, alors les psys, on est formés pour ça, ce qu'on appelle, alors à terme pompeux, la neutralité bienveillante, c'est-à-dire faire un mélange d'émotions, de sentiments, de rationnel. Et quand on parle effectivement de la priorité donnée à l'emploi, je pense qu'il y a des structures comme par exemple la mission locale qui ont compris depuis très longtemps le fait que l'adolescent, c'est quelqu'un qui doit être pris en charge de manière globale sur tout ce qui peut faire frein justement à son autonomie. Alors on parle beaucoup de travail, mais il y a aussi le lien à la famille, la santé, il y a l'autonomie par l'accès à au permis et autres. Donc il y a tout un travail qui est fait en amont, il y a un étayage conséquent.
Les ados ont-ils les moyens de leur autonomie? Table ronde plateau radio proposée par la MJC Espace Hélios de Lambre-Lidoué et Radio Scarpe Sensée. Avec la participation de Brigitte Bonafé, psychologue, Mohamed Rezgi, éducateur en service PJJ, administrateur au centre social Henri Martel de Oisier, Éric Marteau, directeur de l'école européenne supérieure de travail social de Lille, Laurent Buisine, éducateur à l'EPDSAE du Nord, antenne de Douai, Nina Debaille, responsable du collectif La Jeunesse est Douai et présidente fondatrice de l'association La Parenthèse Musicale, et François Chastain, directeur de la MJC La Maison, centre social du Virolois à Tourcoing. On demande finalement de faire au MJC, aux structures associatives, à la place d'eux, parce que ça coûtera moins cher de passer par vous.
Je ne sais pas, enfin, en plus, moi, j'entends bien que ça coûte cher. Mais ce qui coûte cher, c'est la réalité quotidienne de centaines et de milliers de jeunes. Enfin, aujourd'hui, c'est ça qui coûte cher. Hein. Ce n'est pas le coût que représentent des politiques publiques qui permettent de développer une présence dans les quartiers, un accompagnement là où il est nécessaire. Donc moi, je rejoins complètement en disant que c'est des choix politiques qui sont faits. Ce qui fait que finalement, on ressent bien que dans ce qu'on appelle l'autonomie, il y a ce qui relève d'un processus, où on a sans doute, nous, dans un rôle d'éducateur populaire, un rôle à jouer. Donc comment ce processus, avec ses réussites, avec ses moments de conflit, avec ses échecs, comment on contribue de ça? Mais je pense que ça n'a de sens que si en même temps, ça s'appuie sur une promesse d'avenir. Et cette promesse d'avenir-là, elle nous renvoie au très grand groupe. Enfin, c'est-à-dire, à un moment, est-ce que ça vaut le coup? Dans quoi je m'engage? C'est vers quel parcours? Alors, c'est vrai que sans doute pour la plupart d'entre nous, c'est difficile d'imaginer ce que peuvent vivre des jeunes aujourd'hui de 14, 15, 16, 17 ans. C'est quoi la promesse d'avenir? Et à partir de là, pourquoi tu m'engages dans ces processus d'apprentissage? Enfin, quel sens ça a? Et je pense qu'aujourd'hui, une des vraies questions, c'est finalement, quelle promesse d'avenir? Comment je peux m'imaginer? Parce que l'acquisition de l'autonomie, elle se situe aussi là-dedans, enfin, dans cette, à la fois la compréhension du monde, mais cette capacité à pouvoir y trouver toute sa place. Alors, la question de départ, c'est comment on fait? On fait avec ce qu'on peut, dans ce contexte-là, où, à mon avis, il faut d'abord pas raconter de salade, parce que sinon, on est rapidement rappelé aux réalités quotidiennes que vivent beaucoup de jeunes, mais en même temps, de se dire, dans ce contexte-là, comment on est dans une situation de compréhension de ce qui s'impose à moi, les acteurs en jeu, les discours portés, ma capacité à rentrer dans tel ou tel dispositif, enfin voilà. Et puis, cette idée qui est chère aux maisons de jeunes et de la culture, mais qui leur appartient pas en propre, de se dire finalement, dans MJC, il y a maison, enfin, donc c'est un petit espace, c'est un petit machin de rien du tout, mais où ce qui se joue à l'intérieur, c'est les enjeux de société, c'est la rencontre à l'autre, c'est le conflit, c'est aussi la rencontre intergénérationnelle, c'est aussi les milieux sociaux différents. Enfin, et à mon avis, le meilleur service qu'on peut rendre, si tant est que ce soit un service, c'est dans cet espace-là de mettre en scène ce qui se joue et construire des savoirs transférables, enfin, et qui vont faire que demain, un jeune en responsabilité à l'MJC le sera peut-être au Conseil des jeunes de la ville, ou deviendra un militant syndical, ou peut-être un élu politique, ou tout simplement un citoyen debout.
Nina, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de te lancer, de prendre tes responsabilités, d'abord associatives, voilà, là, il y a eu toutes ces démarches-là, après la création d'entreprise. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Il y a quelqu'un? Il y a quelque chose ou
Je crois qu'inconsciemment, j'ai comblé mon vide de ne pas savoir quoi faire. Parce qu'en 15 jours, j'ai créé une association et une entreprise. L'une qui a pour but en fait, de promouvoir la musique sur le territoire du Douaisy, en se disant que peut-être qu'il y a plein d'événements, mais qu'en fait, personne ne le sait, donc personne n'y va, donc Douai, c'est mort. Donc tout un cercle vicieux comme ça. Et pourquoi les groupes douaisiens, qui sont plus de 90, vont jouer dans d'autres villes et ne jouent pas à Douai? Et toute cette question de communication, en fait, avec le numérique, des outils que je connaissais, ou du moins qui m'intéressaient, tout ça. Et d'un autre côté, l'entreprise, c'était un moyen, en étant étudiante, de trouver des contrats, de pouvoir commencer à créer de l'expérience, en fait, pour mon CV. Et de me dire, ben, en fait, j'ai pas trouvé de travail, c'est pas grave, on va continuer l'entreprise. J'en ai pas beaucoup cherché non plus, faut le dire, mais bon, ça fonctionnait, donc pourquoi pas continuer.
Ouais. L'autonomie, qu'est-ce que t'entends par là, toi ? Quand on parle des jeunes et de l'autonomie ?
Non, mais j'ai l'impression d'être autonome depuis hier, quoi. Ça fait un an que j'apprends à cuisiner, 6 mois que je me suis mis au jardinage. C'est des étapes, en fait. Il y a peut-être des choses sur lesquelles j'étais autonome très tôt, et d'autres où je le suis pas encore. Ce matin, j'ai été voir comment ça fonctionne, les assurances. Je comprends rien. C'est super compliqué. Donc ouais. Je vais appeler ma mère qui va m'expliquer tout ça et tout. Mais il y a plein d'étapes en fait qui sont plutôt empiriques. On essaye, on réussit pas, comment on a fait, comment on fera la prochaine fois. Et puis petit à petit, on essaye de pas oublier la fois d'avant et on avance.
Il y a également de la transmission aux autres jeunes. Est-ce que ça se fait également comme ça ? Est-ce que tu apprends des autres ? Est-ce que tu apprends aux autres ? Est-ce que cet échange, ça existe ? Est-ce que le lieu associatif, c'est ça aussi, l'engagement associatif ?
Ben, je pense vraiment en fait, que chaque jour, on apprend plein de choses, même si on n'en a pas forcément conscience. Et après, c'est important de montrer aux autres que malgré mon jeune âge, ben, si moi j'y arrive, pourquoi vous n'y arriverez pas, quoi ? C'est qu'une question de temps, de volonté. De toute façon, tout est humain, financier ou temporel. Soit vous avez le temps, du coup vous pouvez trouver de l'argent et vous pouvez trouver des humains. Soit vous avez les humains, vous n'avez pas l'argent, mais peut-être qu'avec du temps vous pourrez trouver l'argent. Soit vous avez l'argent et vous n'avez pas les humains ni le temps, et là, bah, vous faites des trucs à gros budget. Puis vous payez plein de prestataires. Mais au final, c'est tout le temps les mêmes problématiques qui reviennent, et de montrer en fait que ben, l'associatif, c'est une forme en fait, qui permet de trouver du financement, pas de manière facile, mais du moins beaucoup plus accessible que si on était tout seul. Parce que je ne sais plus qui a dit « ensemble, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Je crois que c'est un proverbe africain, un truc comme ça. Et parce que d'une autre manière, en fait, ben, voir qu'il y a d'autres gens qui ont la même motivation, qui ont les mêmes envies, et qui, un cerveau tout seul, ça sait des choses, plein de cerveaux ensemble, ça en sait plus. C'est pareil, ça permet de créer du savoir, en fait, et de se dire ben, « tiens, moi j'avais pas pensé à ça, toi tu sais faire ça », et de créer, en fait, quelque chose ensemble, quoi.
Mais qui t'a fait confiance à toi ?
Ouais, je pense que c'est ma mère. C'est bizarre, hein. Mais je me dis que ma mère, divorcée, a réussi à faire créer sa propre maison. Et à partir de là, quand on se dit que quelqu'un arrive à créer ses propres projets en étant tout seul, ben, il n'y a plus qu'à. C'est que de la volonté, en fait. Et de... Je ne sais pas trop. Je me dis qu'elle m'a aidée, elle m'a accompagnée. Elle est trésorière de l'association, c'est très rigolo. Mais comme ça, au quotidien, enfin, de se dire que derrière, il y a des gens qui se disent « Oui, elle ne fait pas n'importe quoi, il y a moyen de l'aider, on va voir comment on peut faire. » Puis après, de se dispatcher. Elle est moins présente, d'autres prennent la place. Etc.
C'est compliqué d'être jeune aujourd'hui ?
Bah en fait, ça dépend ce qu'on appelle jeune.
Toi, tu mettrais quoi ? Tout à l'heure, tu m'as dit, moi, quand on parle de Madame de Baille, je crois que c'est ma mère qui va se retourner, c'est pas moi.
Mais c'est simple, on m'appelle pas Madame de Baille, quoi. On m'appelle Nina, ou Mademoiselle, ou juste Nina, quoi. C'est tout. Ou la présidente de l'association Bidule Truc. Mais personne ne m'appelle Madame de Baille, et je crois que ça serait super flippant qu'on m'appelle Madame de Baille. Alors, je sais pas à partir de quand est-ce qu'on doit s'appeler Madame, ou Mademoiselle, ou jeune fille. Mais on m'appelle femme, tiens, c'est une belle femme. Il va y avoir un gros blocage, genre non, je ne suis pas une femme, je suis désolée, appelez-moi jeune fille. Mais je pense que c'est parce que je n'ai pas passé les étapes. Ou alors qu'il n'y a juste peut-être pas d'étapes.
On parlait de création d'association, vous avez connu également ça ?
Ouais, j'ai connu ça, mais en tout cas, moi je voulais aborder quelque chose, c'était la notion, la question politique de la jeunesse. Parce qu'on parle d'autonomie, d'indépendance, je ne sais pas si on parle de la PAI ou... Et foncièrement, bien sûr, c'est une question politique. C'est un enjeu de société, mais c'est une question politique. Alors ça peut paraître paradoxal, mais pour certains, c'est plus rassurant d'avoir une jeunesse dépendante, sous contrôle. C'est beaucoup plus simple, c'est plus prévisible. Donc voilà, amener à l'autonomie, c'est l'autonomie de pensée, c'est aussi l'autonomie politique, c'est aussi l'autonomie associative, c'est-à-dire de création, d'engagement. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est travaillé, notamment sur l'axe de la citoyenneté.
Parce que les politiques jeunesse sont conçues pour répondre à un problème jeunesse ?
Il n'y a pas de problème jeunesse.
On ne les vend un peu.
On ne les vend que comme ça. On ne les vend que la jeunesse est un problème. C'est un problème et qu'il faut contrôler, orienter, rendre dépendant ou en tout cas avoir la main sur leurs moyens de communication, sur ce qui va. C'est un enjeu politique. On aura beau dire tout ce qu'on veut, c'est un enjeu politique. C'est un enjeu de société, mais qui est aussi un enjeu politique.
Première partie de cette table ronde plateau radio. Les ados ont-ils les moyens de leur autonomie ? Une émission proposée par la MJC Espace Hélios de Lambreau-les-Doués en partenariat avec Radio Scarpe Sensée. On se donne prochainement rendez-vous pour la suite de cette émission avec l'ensemble de nos invités. Merci de votre fidélité. À très bientôt.